On va parler des limites. Bon, pas dans cet esprit-là de vouloir repousser ses limites, mais un peu dans l'idée de ce que Michael a partagé, les limites dans lesquelles on s'enferme. Et c'est vrai que Michael, il était, en pensant à ce figuier qui ne pouvait pas donner du fruit parce que ce n'était pas la saison, dans la conception, dans cette conception-là, c'était une conception restrictive. Elle restreignait l'idée que il puisse porter du fruit aussi à d'autres moments. Mais justement, Dieu veut qu'on aille plus loin que ça et il veut nous faire sortir des limites dans lesquelles nous, on se place. Et donc, le sujet de ce matin, ce que j'ai eu sur le cœur, c'est que on est tous d'accord, Dieu nous a appelés à devenir ses enfants. Donc, on est content. On est devenus ses enfants, ses fils, ses filles. Et il veut qu'on vive une vie heureuse, une vie joyeuse, parce que peut-être que vous croyez qu'un chrétien, c'est forcément quelqu'un de comme ça, quoi, bien rangé, de triste. Et pourtant, dans la Bible, c'est écrit « Soyez toujours triste, en pleurs, marchant d'un pas pesant ». C'est ça, hein ? Non, soyez toujours joyeux. Ouais, bon, si c'est précis, c'est peut-être parce que c'est pas si évident que ça. Mais soyez toujours joyeux. Et Jésus veut qu'on vive de façon permanente une vie heureuse, joyeuse, épanouie, en relation avec lui. Parce que sans cette relation, si on n'est pas branché à Dieu, à notre Seigneur, c'est sûr, on ne reçoit pas la sève. Et si on n'a pas cette sève, on n'arrivera pas à être joyeux. On n'arrivera pas à mener cette vie épanouie. Mais malheureusement, on s'enferme souvent, ou on est enfermé dans des limites qui sont dues à notre éducation, parfois, à notre histoire, à nos conceptions, à ce qu'on a entendu dans notre enfance, à ce qu'on a entendu dans l'Église, à ce qu'un frère ou une sœur, peut-être maladroit, nous a dit un jour, et qui fait que on s'enferme dans des limites, et ces limites ont... On y reste. Et si on n'apprend pas à prendre du recul, à voir les choses autrement, on y reste et on empêche. Par ce comportement, on empêche Dieu d'agir dans notre vie parce que on est trop étroit dans notre tête ou notre cœur est devenu trop étroit. Et je vous propose ce matin de parcourir des exemples bibliques, personnels aussi, qui vont peut-être vous aider à comprendre quelles sont vos limites. Je n'ai pas la prétention de vous dire à chacun, toi tu es enfermé à cause de ça, non. On va parcourir la Bible, parcourir des extraits de la Bible, je ne prétends pas du tout balayer tous les exemples, vous allez en trouver vous-même, et ce que je veux c'est éveiller votre sensibilité dans ce sens, pour trouver vous-même. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Quelles sont les limites dans lesquelles je suis enfermé? Alors, je vais commencer par un exemple. La dernière fois que j'ai pressé, je vous ai joué un tout petit morceau de violon. Et je vais vous reparler de mon violon. Parce que pendant très longtemps, j'ai joué avec un violon qui était dur à jouer. C'est le même qu'aujourd'hui. Mais il avait un problème. Vous savez, on pose les doigts sur un morceau de bois qui est en ébène noire. Et le mien, c'était, en fait, le luthier m'a dit que c'était du poirier, je crois. Et c'était une touche qui était vieille et qui était vrillée. Elle était vrillée, donc au lieu d'être bien arrondie en suivant la forme des cordes, elle était vrillée, ça veut dire qu'elle était affaissée. Et pour jouer sur la corde mi, qui est la corde la plus aiguë, l'écart entre la corde et la touche était très grand. Ce qui faisait qu'il fallait vraiment appuyer très fort, et c'était hyper douloureux pour les doigts. Et ça fait que le violon était très dur à jouer. Bon, mais j'ai joué avec ce violon pendant plein d'années. Et puis, il y a quelques années, je me suis décidé à aller voir un luthier pour faire remplacer la touche. Bon, ça coûte quand même cher, c'est pour ça que ça a attendu longtemps. Et elle m'a remplacé la touche, et vraiment depuis, quelle différence, c'est un violon qui va beaucoup mieux à jouer. Mais en fait, il était dans des limites. Il était coincé dans ses limites. Et moi, en tant que musicien, je ne pouvais pas jouer ce que je voulais dessus. Je n'arrivais pas à exprimer tout ce que je voulais parce que j'étais limité à cause de cet instrument. Et nous, ne sommes-nous pas un instrument entre les mains de Dieu? Dieu a envie de jouer des choses sur nous, sur les cordes que nous sommes, sur l'instrument que nous sommes, mais si nous ne le laissons pas s'exprimer, si à cause de nos limites, il ne peut pas faire ce qu'il veut sur l'instrument que nous sommes, comment va-t-il jouer cette mélodie céleste qui exprime son amour, son Saint-Esprit, qui exprime ses paroles? Comment pourra-t-il le faire? Si à cause de nos limites, nous sommes un instrument qui est dur à jouer, ben forcément, Dieu va nous faire passer par des tas de cheminements, des tas d'expériences pour redresser notre touche, hein, si on prend l'image du violon, ou pour réaccorder le piano, pour ajuster les touches du piano, pour ajuster l'âme du violoncelle, pour bon, il y a des tas de comparaisons d'instruments pour qu'on puisse vraiment jouer la mélodie que Dieu veut qu'on joue. Moi, je me souviens aussi de paroles que ma mère m'avait dites, et d'ailleurs, Janet va peut-être s'en souvenir. C'est grâce à toi, Janet, aux paroles que tu as eues, que je m'en suis sorti. Mais voilà, quand j'étais gamin, ma mère m'avait dit, « Toi, ta vie, elle sera toujours dure. Il faudra que tu te battes pour tout. Ce sera toujours un combat. » Et je l'ai cru. Et d'une certaine façon, c'est vrai, la vie, elle n'est pas toujours facile. C'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire. Mais moi, j'ai cru que ma vie, bah oui, elle serait toujours dure et que j'aurais jamais rien, que je serais jamais content, que je serais jamais joyeux, parce qu'il faudrait toujours me battre. Et puis, quand j'étais dans la maladie, qu'on avait plein de soucis, Janet était venue à la maison et Isabelle lui avait répété justement ses paroles en disant avec résignation, « Bah oui, de toute façon, Manu, il le sait, sa vie sera toujours dure. C'est comme ça. » Tu te souviens? Et voilà. Et Janet avait réagi vraiment bien en disant, « Mais non, Isabelle, c'est pas normal de croire ça. » Et Isabelle, après, m'en avait parlé et puis on s'est mis devant le Seigneur et c'est vrai, le Seigneur nous a fait évoluer. Vous voyez, je m'étais enfermé à cause de ces paroles, j'avais peut-être mal comprise, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'étais enfermé dans des paroles où, bah ouais, je ne pourrais jamais être heureux, parce qu'on me l'avait dit, et je l'avais pris comme étant une parole du Seigneur, que ce serait toujours comme ça. Mais peut-être toi, dans ta vie, tu as peut-être aussi déjà entendu des paroles, on t'a peut-être dit quand tu étais enfant à l'école que tu étais un nul, que tu serais nul toute ta vie, que tu t'en sortirais jamais. Peut-être que tu as entendu ça dans ton offense ou d'autres paroles qui t'ont cassé, qui t'ont blessé. Mais sache que ce ne sont pas les paroles que Dieu t'a dites. Les paroles que Dieu te dit dans sa parole, c'est « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut que tu vives une vie en abondance joyeuse, en communion avec ton Dieu, avec ton Créateur. Et c'est cela que tu dois croire. Si tu crois autre chose qui te diminue, qui te met dans des limites, dans des frontières qui te semblent infranchissables, alors sache que c'est un mensonge. Dieu veut que tu ailles au-delà de ces limites. Et ça, j'ai commencé par ces deux exemples qui sont personnels, mais ben Janet, elle nous a aidés par le Seigneur à sortir de ces limites, à sortir de cette conception. Mais dans la Bible, on a bien d'autres exemples de personnes qui étaient enfermées dans leurs limites. Et on va commencer par voir, alors peut-être que vous vous dites, bah oui, évidemment, il va parler de Gédéon, c'est un exemple qui est très connu, vous le savez, mais on va aller le lire quand même. Dans Juges, chapitre 6, on va lire juste un extrait, versets 11 à 16. Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges. Je dirai pas, je réciterai pas tout quand ce sera dans le Nouveau Testament. Hein. Alors, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, ben, Madian, c'était un ennemi d'Israël et il volait constamment les récoltes, il faisait des ravages et c'était extrêmement décourageant pour le peuple d'Israël. Et puis voilà, un ange vient voir ce Gédéon. Et l'ange, au verset 12, de l'Éternel lui apparut et lui dit « Ah, l'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui répondit « Ah, mon Seigneur, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se retourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et nous, est-ce qu'on se dit pas « Mais oh, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre ?» Combien de fois on se dit que, évidemment, le Seigneur, il peut faire ça avec ce grand prédicateur, avec ce frère, cette sœur qui est illustre dans l'Église. Mais moi, qui suis-je ? Qui suis-je, moi, pour faire quelque chose pour le Seigneur ? On ne se le dit pas, ça ? Vous ne vous le dites pas ? Un enfant ne se le dit-il pas ? Peut-être qu'il y a des ados qui se le disent. Moi... J'arriverai jamais, je suis trop nul, je suis nul à l'école, je sais pas parler, je suis trop timide, je vais jamais oser venir dire quelque chose, je vais jamais oser prendre la parole, je vais jamais oser prier dans l'église. Mais, il y a un mais à tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange ? Mais, je serai avec toi. Et ça va tout changer. Si tu veux rester dans tes limites, dans ta croyance que de toute façon, tu ne pourras jamais faire quelque chose de ta vie, tu vas y rester, ça c'est sûr. Mais si tu écoutes le « mais » de Dieu, si tu écoutes le « mais » de l'ange qui te parle, et ce n'est pas moi l'ange, hein, c'est Dieu qui vous parle, qui parle à votre cœur. Écoutez-le, il vous dit un « mais ». « Mais je serai avec toi ». Et c'est ce qui va changer la donne. Mais seulement, Gédéon, il a bien fallu qu'il se lève après avoir cru ce « mais ». Il a fallu qu'il... il a demandé des signes, vous le savez. On ne va pas lire toute l'histoire, mais lisez-la. Lisez-la chez vous. Mais après avoir eu vraiment confirmation, il a bien fallu qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il y aille, ce Gédéon. Il a accepté de sortir des limites dans lesquelles il croyait qu'il allait passer toute sa vie. Parce que je vous assure qu'au quotidien, il se dépêchait de ramasser ce qu'il pouvait de la récolte pour le cacher, parce que l'ennemi allait venir tout voler. Il aurait pu continuer à faire ça toute sa vie, jusqu'à sa retraite, à se dépêcher péniblement, comme un misérable, dans la famille la plus pauvre, et en tant que le plus petit de cette famille la plus pauvre. C'était sa vision qu'il avait pour son avenir. Il n'envisageait rien d'autre. Mais Dieu est venu s'adresser à lui, et c'est lui qui a été choisi. Et peut-être, toi déjà enfant, ou ado, ou jeune, ou même parent, tu dis « j'étais comme ça jusqu'à aujourd'hui ». Ça ne va jamais changer, ça ne peut plus changer pour maintenant. Mais Dieu peut s'adresser à toi. Et ça peut changer. Ça peut changer. Dieu est tout puissant. Tu as peut-être été malade jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Dieu peut te guérir. Tu as peut-être été timide jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'était mon cas, je vous assure. Et puis, un jour... Seigneur m'a touché, et puis je suis sorti de ça. Peut-être que tu n'as jamais osé prendre la parole, mais à partir de ce moment, Dieu te touche et tu vas oser ouvrir la bouche pour que, comme Christine l'a dit, nos moments de prière et de louange dans l'Église, ce ne soient plus des longs moments de silence, mais qu'on loue le Seigneur, parce que tu auras osé sortir de cette limite dans laquelle tu t'es enfermé, où tu crois que tu ne vas jamais en sortir. Les choses peuvent changer. Parce qu'il y a un « mais ». Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et ça change toutes les données. Et on connaît l'histoire de Gédéon. Il n'est pas allé avec des milliers d'hommes, 300. Il a fait toute une sélection sous la conduite de Dieu. Vous vous rendez compte? Lui qui croyait qu'il était le plus petit, sa famille était la plus pauvre. Il est devenu celui qui a délivré Israël et son nom figure dans la Bible. C'est un héros. Et il se voyait un misérable, voué à cette misère pour toute sa vie. Se croyait tout petit, Dieu le voyait grand. Quand Dieu s'est adressé à lui, il ne lui a pas dit « t'es le tout petit ». Il lui a dit « vaillant héros ». Et ça change vraiment les données. Alors peut-être que tu te reconnais ce matin. Alors si tu te reconnais, dis-toi que ce qui est arrivé à Gédéon, ça peut t'arriver à toi, peut-être pas dans la même mesure. Mais tu peux changer de statut. Tu peux passer à une autre étape de ta vie. Tu peux franchir une frontière que tu n'as jamais osé franchir. Parce que Dieu te parle, Dieu il est avec toi et écoute ce « mais » de Dieu. « Mais je serai avec toi et tu vaincras. » Et il y a une histoire qui ressemble un peu dans le Nouveau Testament cette fois. Dans Matthieu 25, on va aller la regarder. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 14. Où là, on voit quelqu'un qui était dans ses limites et qui n'en est pas bougé, qui n'en a pas bougé. Et on va voir les conséquences. Verset 14. Il en sera, c'est la parabole des talents, vous la connaissez tous, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Alors aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Beaucoup plus tard, on voit le maître qui rentre, on ne va pas tout lire. Le maître rentre et puis il demande des comptes à ses serviteurs. Et il les récompense chacun, celui qui en avait 5. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pareil pour celui qui en avait 3. Et puis voilà le petit misérable qui arrive, qui n'en avait reçu qu'un seul. Et il dit au maître, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite. Et il dit au verset 24, je savais que tu es un seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Évidemment, le maître n'est pas content. Il lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, on est à l'opposé. On voit l'exemple de quelqu'un, il avait reçu qu'un seul talent. Or, tu te dis peut-être, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Je suis tout petit, comme Gédéon. Et puis, ben, tu vas rien faire de ta vie pour avancer. Tu as des exemples autour de toi. T'en vois qui ont 5 talents, ben, ils l'ont fait produire. T'en vois qui ont 3 talents, ils l'ont fait produire. Et toi, parce que tu estimes que tu n'en as pas reçu assez, alors tu restes tout petit. Mais sache que un jour, tu te trouveras comme ce serviteur devant Dieu. Parce que Dieu a donné des talents à tous. C'est vrai on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est marqué, il a donné des talents selon les capacités. Mais peu importe, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse quelque chose du talent qu'il nous a donné. Et si tu ne fais rien, parce que bah, tu te dis, on n'est qu'un seul. Lui, il est grand. Il sait tout faire. Moi, je suis tout petit, j'ai que ça. Alors, bah, je vais rester comme ça toute ma vie. Bah, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Le talent que tu as, tu peux le multiplier. Tu peux en faire quelque chose pour Dieu. Gédéon, on a son exemple. Il a fait quelque chose. Il a écouté la parole de Dieu. Il était tout petit aussi, comme ce serviteur qui n'avait qu'un seul talent. Mais il a fait fructifier ce talent. Il a vu au-delà. Il a accepté de sortir de cette conception minimaliste de la vie chrétienne. Il a fait produire, il a fait valoriser, valoir ce talent. Et il a fait quelque chose de sa vie. Et ce serviteur-là, il n'a rien fait de sa vie. Il a enterré le talent. Et Dieu lui a demandé des comptes. Peut-être que tu es comme ce serviteur. Jusqu'à aujourd'hui, tu as caché ce talent parce que tu n'as pas osé le sortir, parce que tu te dis c'est trop petit. C'est vrai, c'est peut-être petit, mais Gédéon aussi était petit. Et il a fait autre chose de sa vie. Et toi, tu peux faire aussi autre chose de ta vie. Et Dieu te rappelle ce matin. Il t'a donné peut-être un seul talent, mais tu dois en faire quelque chose. Tu ne peux pas le garder enterré au fond, dans la terre. Il faut que tu le sortes. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Ça prendrait trop de temps, mais il y a la même idée, on ne met pas une lampe, un chandelier pour le cacher. C'est fait pour être mis en valeur, pour que ça éclaire. On ne doit pas cacher ce que Dieu nous a donné. Les talents, ce qu'il a mis en nous, ça doit sortir, ça doit produire du fruit. On va regarder aussi la vision des ossements. J'aime bien ce passage. Vous le connaissez peut-être tous aussi, donc dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, on va lire juste les versets 1 à 12. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est adressé pour le peuple d'Israël qui revient dans sa patrie, qui ressuscite de tous les endroits du monde dans lesquels il s'est trouvé exilé. Mais ça ne peut pas s'adresser à nous dans notre vie. N'avez-vous jamais traversé des moments dans votre vie où vous êtes dit « Je suis mort, c'est sec, je suis, ma vie est comme des ossements desséchés et morts. » Moi, ça m'est arrivé. Ça nous est arrivé à Isabelle et moi. Et on se regardait, on était au fond du gouffre, déprimés. On est mort, on n'en peut plus. Et on peut rester au fond du gouffre. On peut y rester jusqu'à sa mort. Si on reste résigné, on s'en sortira jamais. C'est trop dur. On n'en peut plus. On est déprimé. On n'a plus de force. On va bosser avec des pieds de plomb. On est épuisé. On est découragé. Ben ça, c'est le portrait de cette vallée des ossements. Mais sache que depuis ce portrait qui est affreux, vous imaginez cette scène dans laquelle le prophète Ézéchiel, il était transporté en esprit. C'est affreux. Il n'y a aucun espoir. Mais là encore, il y a un mais. Prophétise. Vas-y. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tu te crois fichu. Tu crois que ta situation, il n'y a plus d'espoir. Alors tu t'enfermes dans des limites qui ne sont pas du tout celles de Dieu. Dieu, il est tout puissant. Et d'ossements secs, morts, sans vie, sans espoir, morts depuis des années, dans une vallée lugubre, ben Dieu peut te dire, vas-y, prophétise sur ces ossements. Parce qu'ils vont revivre. Et les os vont se rapprocher les uns des autres. Les nerfs vont se remettre à pousser. De la peau va revenir, de la chair va revenir autour des os. L'esprit de vie va revenir pour animer à nouveau ces corps. Et ils vont se remettre debout. Vous vous rendez compte ce que Dieu est capable de faire? Alors dis-toi bien que si ta situation... elle semble impossible, inextricable, sans solution, sans espoir. Ben écoute la voix de Dieu. Dieu peut dire à un prophète, prophétise sur ces eaux et ils vont revivre. Quel message d'espoir, vous ne trouvez pas? C'est puissant parce que quand c'est Dieu qui ouvre la bouche, quand c'est Dieu qui dit, ossement, revis, eh bien, ça revit, parce que c'est Dieu qui le dit. Un jour, Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière, et la lumière fut. Il n'y avait pas de vie, et Dieu a prononcé des paroles, et la vie est apparue. Et si la vie a été perdue, que c'est la mort, eh bien, même de la mort, Dieu peut refaire vivre, parce que c'est lui qui est Dieu, et sa parole, elle est toute puissante. Alors tu peux croire que dans ta situation qui semble sans espoir, ben il y a un espoir. Parce que Dieu est le Dieu de la puissance et quand il prononce une parole d'espoir, tu peux la saisir parce que tu peux t'en sortir. Dieu, il est tout puissant et tu peux te relever et tu peux te mettre à marcher. Et ça, c'est un miracle. Mais si tu choisis de rester avec cette croyance que « ben non, ça n'évoluera jamais, ça ne peut pas, c'est pas possible, c'est perdu », ben tu resteras dans cet état. Parce que quelque part, Dieu a besoin de ta collaboration. Il faut que ton regard, il se tourne vers le haut. Moi, je me souviens de ce que Isabelle avait partagé avec la vidéo du saut en parachute de Timothée. Bah, il fallait lever la tête. Et si on ne lève pas la tête, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est vrai que dans l'époque dans laquelle nous vivons, si on regarde notre monde, il y a de quoi être affligé. On se retrouve un peu comme Lot. Et que dit la Bible de Lot ? C'est que ce juste, il tourmentait son âme jour et nuit à cause des mauvaises actions de ses concitoyens. Et nous, si on regarde notre monde, on a de quoi être affligé, se dire « mais où est-ce qu'on va ?» Mais on le sait où on va. Mais que nous a dit Jésus ? Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez votre tête, car votre délivrance approche. Et c'est vrai, notre délivrance approche. Mais en attendant, on a de l'espoir, parce que même de situations présentes aujourd'hui, le Seigneur peut nous faire sortir. Tu es peut-être au chômage, tu es peut-être malade, tu es peut-être déprimé. Peut-être qu'il y a des idées que je ne prononce pas, mais approprie-toi dans ta situation. Les paroles présentes, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais seulement, si tu restes enfermé dans les limites, ben, tu vas y rester dans ta situation. Comme cet homme qui avait reçu un talent et qui l'a enterré. Il n'a pas cru que ça pouvait faire quelque chose de grand. Et il est resté tout petit toute sa vie. Et Dieu ne veut pas que tu en restes là. Il veut que tu sortes et que tu deviennes comme un Gédéon. Vous savez, si on n'avance pas, si on n'y met pas notre volonté, on va rester petit et quelque part on empêche Dieu d'agir dans notre vie. On a un sacré pouvoir quand même. On peut avoir le pouvoir de laisser Dieu s'exprimer dans notre vie, mais on a aussi le pouvoir de l'empêcher d'agir dans notre vie. Parce que Dieu ne s'impose pas à nous, il frappe à la porte et il ne demande que ça d'entrer. Mais si tu ne collabores pas, il ne va rien se passer. Et vous savez, on va aller voir un verset qui est un peu affligeant. Dans Matthieu, chapitre 13, là c'est facile, hein, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Donc, Matthieu, chapitre 13, juste un verset, verset 58. Il est question de Jésus, mais il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ah, ils ont limité Jésus. Pourtant, il était là en chair et en os. Hein. Mais il est allé faire les miracles plutôt ailleurs. À cause de quoi ? À cause de leur incrédulité. Si on est incrédule, même en étant chrétien, hein, on peut être incrédule sur certaines choses, Jésus ne fera pas beaucoup de miracles. Alors, il tirera peut-être sur la corde, je pense, plus que peut-être, pour nous faire évoluer, on le verra après, hein. Il veut nous faire avancer. Mais si on freine des quatre pattes, on va pas y aller. Hein. Les jeunes, hier, pour ceux qui étaient là, le filet de Tarzan, c'était bien. Hein. Ouais, si on voulait atterrir dans le filet de Tarzan, fallait aller sur la plateforme, fallait tenir la corde et accepter de se lancer dans le vide en tenant la corde pour arriver dans le filet de Tarzan et s'accrocher. Si on voulait éprouver cette sensation d'arriver dans le filet, fallait sauter. Hein. Et si on voulait pas sauter, tant pis, on n'ira pas dans le filet de Tarzan. Hein. Mais dans notre vie, c'est pareil. Hein. Si on reste incrédule, on empêche l'action du Seigneur dans notre vie. Et on rate des choses. Et c'est dommage. Dieu veut tellement plus. Dieu veut nous donner tellement plus. Et ne soyons pas comme ces gens dans ce village, hein, qui était l'origine de là où Jésus était né, où il avait grandi. Ben, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Je vais continuer parce que le temps passe. Ça va être un peu plus compliqué à comprendre ce que je voudrais dire là, mais c'est important aussi. On peut croire que la vie chrétienne, c'est juste ressembler à un chrétien, venir à l'église, dire bonjour à tout le monde, être poli, avoir une vie bien rangée, avoir l'apparence, quoi. Alors si tu crois que la vie chrétienne, c'est ça, ben, tu te trompes. Tu vas ressembler à un chrétien. Mais tu t'enfermes dans des limites qui sont de pauvres limites charnelles et terrestres. On pourrait aller voir hein, dans Colossiens 2, et j'ai peur que ça dure trop longtemps, dans Colossiens 2, lisez-le chez vous, bon, ça parle de plein de choses, hein. J'ai juste extrait où il est question des pauvres rudiments du monde. Pourquoi vous imposent-on, ne touche pas, ne mange pas, ne goûte pas? Et ça, c'est une apparence de vie chrétienne. Tu penses peut-être que la vie chrétienne, ben, c'est suivre des règles. Et moi, j'étais un peu élevé dans cette conception. Mais si tu penses que ce n'est que ça la vie chrétienne, de suivre des préceptes, ben il faut avouer que c'est dur. C'est dur si c'est ça la vie chrétienne. Si c'est aussi rigide avec des choses que tu as le droit de faire et des choses que tu n'as pas le droit de faire, c'est pas marrant. C'est vrai, hein? Ah oui, les jeunes. C'est pas marrant si c'est que ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que ça. Parce que, en fait, c'est pas par là que ça commence. La vie chrétienne, elle commence à l'intérieur. Et si c'est Dieu qui a agi à l'intérieur, si tu l'as laissé s'exprimer dans ton cœur, alors tu vas t'épanouir, tu vas être heureux, et puis ce qui te donnait l'impression de ne pas avoir le droit de faire, ben en fait, c'est nul de toute façon. C'est pas ça que j'ai besoin. Et là, ça donne une autre vision quand même. Mais si tu penses que bah, tu vas devenir chrétien en suivant juste là, hein, en marchant bien droit sur cette rangée de carrelage, ben non, c'est pas ça être chrétien. Laisse le Seigneur agir. Cherche sa présence. Greffe-toi à l'arbre pour recevoir la sève. Et puis, ça va être carrément autre chose. Tu vas t'épanouir et il n'y a personne qui aura besoin de te dire « Fais pas ci, fais pas ça. » Tu vas le comprendre de toi-même. Tu vas le savoir de toi-même parce que ce sera ton essence. Ce sera l'eau qui coule en toi. Et il n'y aura aucune contrainte. Et c'est tellement mieux comme ça. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, ben, on n'a pas envie hein, qu'ils aillent de travers dans le monde. Alors on les tient, on a envie de les protéger, c'est vrai, c'est normal. On n'a pas envie qu'ils s'éloignent en allant dans le monde, on préfère leur épargner ça. C'est vrai. Mais il ne faut pas en même temps qu'ils croient, qu'ils se mettent à croire qu'être chrétien, ben c'est suivre des préceptes. Parce que ce n'est pas ça la vie chrétienne. Si on leur inculque ces choses-là, cette croyance, ben on va les enfermer dans des conceptions erronées de la vie chrétienne et il ne faut surtout pas qu'ils y restent toute leur vie parce qu'ils vont être malheureux. Hein, nos enfants, nos jeunes, ne croyez pas que la vie chrétienne, ça se limite à suivre des préceptes. Ne touche pas, ne goûte pas. Hein, moi, j'ai été élevé avec un peu ces rudiments. Hein. Chrétien, ne pouvait pas avoir de télévision à la maison. C'est vrai, j'en ai toujours pas. Hein. Je trouve que c'est une bonne chose, mais il y a des chrétiens qui ont la télé et ce n'est pas pour autant que ce sont des mauvais chrétiens. Mais moi, j'ai été élevé dans cette conception-là, vraiment étroite, que bah ouais, la vérité ne se trouvait que à un seul endroit. Mais non, c'est faux. Seigneur, il parle partout dans le monde. Il y a des frères, il y a des frères et des sœurs partout. Il y a des bonnes églises partout. Et vis ta vie heureux, épanoui avec Dieu. Une fois, on était en vacances, je vous dirai pas où, mais oh, il y a de ces conceptions de femmes chrétiennes. On entendait au bord de la piscine des femmes qui disaient, ouais, une femme qui s'épile pas, franchement, c'est pas un témoignage d'être chrétien. On entendait ça, mais on se disait, mais quand même, faut pas rire, non. Mais oui, mais je vous assure, ça fait rire, mais cherchez un peu, vous, dans vos conceptions d'être chrétien. Vous allez peut-être rigoler aussi de vous-même, de vos conceptions, de ce que vous croyez. Quelquefois, on a une vision qui est étroite et qui est erronée de ce que c'est que la vie chrétienne. Je vous laisse libre cours de chercher. Il y en a qui croient que bon, avoir un téléphone portable, franchement, c'est pas bien. C'est pas chrétien. Bah ouais. Il y a tout, hein. Accrochez-vous au Seigneur. Et il faut l'écouter, lui. C'est vrai, il faut écouter les anciens dans l'église, les frères, les sœurs, mais bon, il y en a, il faut passer au-dessus de ce qu'ils disent. Il ne faut pas vous laisser emprisonner, il ne faut pas vous laisser miner, il ne faut pas que votre vie soit affectée, que votre avenir soit affecté par, quelquefois, des mauvaises paroles. Puis quelquefois, il y a des mauvaises paroles, ce n'est pas vraiment qu'on a eu une mauvaise intention. On a été maladroit. Ne prenez du recul et examinez toutes choses. C'est Christ dans la Bible. Il faut examiner. Et confronter ce qu'on croit, ce qu'on entend à la parole du Seigneur, parce que c'est ça le fondement de la vérité. On pourrait aussi voir un exemple des orchidées. On l'a découvert à la maison il n'y a pas longtemps. Vous connaissez des orchidées, ces superbes fleurs? Et puis seulement, c'est une plante qui est spéciale. C'est que les racines, elles ont besoin d'être à la lumière, contrairement à beaucoup d'autres plantes. Parce que si on met les racines d'une orchidée dans un pot opaque, ben on attend longtemps pour voir des fleurs. Michael, tu as l'air... Ouais, tu savais pas ? Ouais, bon. Ben si, c'est vrai. En fait, ce sont des racines qui ont besoin d'être à l'air, de voir la lumière. Et puis, Anne le savait, Isabelle avait mis une orchidée dans un pot opaque, puis elle ne fleurissait pas, il n'y a pas moyen, ça ne venait pas. Bon, il y avait des feuilles, mais elle n'avançait pas, cette pauvre plante. Puis Isabelle a retiré le pot, elle l'a laissé dans le pot transparent, qui était le pot d'origine en fait, il ne fallait pas changer. Et depuis, il y a des... Elles ne sont pas encore ouvertes, mais elles ne vont pas tarder. Les fleurs, on voit les bourgeons, et elles sont encore fermées, mais elles vont s'ouvrir. Eh ouais, fallait pas l'obscurité. Et moi, ça m'a fait penser à un verset. Hein, vous y pensez peut-être à ce verset dans Ésaïe 59, 2. « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui empêchent Dieu de vous écouter et d'écouter vos prières. » C'est pour ça que vos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors, si tu veux recevoir la parole du Seigneur, il ne faut pas que tu te mettes dans un pot opaque, parce que tes racines, elles ont besoin de voir Dieu. Elles ont besoin de voir la lumière. Tu es une belle orchidée, mon frère, ma sœur. Mais si tes racines, elles sont enfermées dans la terre et dans un pot opaque, qui est tes péchés ? Qui est peut-être ta conception erronée de Dieu ? Tu ne vas jamais fleurir. Sors tes racines. Vas-y, retire ton pot opaque et laisse la lumière de Dieu te transpercer pour que tes fleurs, elles puissent s'ouvrir et que tu puisses t'épanouir sous le regard de Dieu. On pourrait aussi terminer, on va terminer par notre vision de la prière et de l'action. Regardez un peu, je vous donnais en exemple là, je viens de vous prêcher des choses. Cette idée des limites dans lesquelles on s'enferme, je l'ai reçue sur mon cœur. J'aurais pu continuer de prier et dire, « Oh Seigneur, aide-moi à préparer cette prédication. Seigneur, guide-moi, aide-moi, aide-moi pour que je puisse vraiment donner ta parole. » Et puis, ne jamais prendre la décision de prendre ma plume, d'ouvrir ma Bible, de chercher à illustrer, de chercher des exemples, de creuser dans cette direction-là. Ben, je serais bien malheureux là devant vous ce matin, parce que j'aurais pas grand-chose à vous dire. Il a fallu creuser, c'est vrai, l'idée, c'est Dieu qui la donne. Mais après, il faut prendre du temps et il faut y travailler, il faut illustrer, il faut chercher, il faut aller chercher des versets, trouver des exemples pertinents, laisser tomber des exemples qui sont moins marquants. Mais s'il n'y avait pas cette action concrète, ben, il n'y aurait pas assez, il n'y aurait rien. Mais dans notre vie chrétienne, si on reste enfermé et dire « Oh Seigneur, Seigneur, envoie-nous des âmes, Seigneur » et puis qu'on ne va jamais les chercher. Vous croyez qu'elles vont venir dans l'église? Nos frères et sœurs du CADA, on peut prier pour eux « Ah Seigneur, fais qu'ils puissent venir dans notre église. » Ben, il y a eu une action qui a été menée. On a acheté un minibus et on a des frères qui vont chercher. Qui l'utilisent pour aller les chercher. On a agi, on a fait des choses. On a prié, on a écouté Dieu, et tout en restant à prière, on a agi. Mais si on n'agit pas, qui va le faire? Et ailleurs, ça nous est dit aussi, comment voulez-vous qu'ils entendent s'il n'y a personne qui ouvre sa bouche pour aller leur dire? Moi, je me sens misérable et petit quand j'ai entendu Elias parler. Vous rendez compte? Tous les évangiles de Jean qu'il a distribués à lui tout seul. Mais qu'est-ce qu'on se sent et qu'est-ce que je me sens misérable? Lui, ses pieds sont beaux. Il court, il annonce. Il prie. Mais Dieu ne nous demande pas seulement de prier, parce que sinon on reste dans des limites. Et on peut rester dans nos limites comme ça, à croire... Si, Seigneur, il va agir. C'est vrai, il va agir, mais dans ce cas-là, il va agir par d'autres frères et d'autres sœurs. Mais il l'attend de nous aussi. C'est vrai, il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus que prier. Il y en a, comme Marie-Jeanne, elle ne peut pas courir, mais elle peut prier. Mais on est combien à pouvoir agir et à quand même ne pas agir assez, ou pas du tout, ou peu? Le Seigneur veut sûrement nous élargir notre vision pour sortir et agir. C'est un peu comme la foi et les œuvres. Les deux vont ensemble. On peut rester enfermé juste avec la foi. Mais Dieu veut qu'on aille au-delà, la foi et les œuvres. Alors pour conclure, on a un Dieu qui est puissant. Ça, on le croit tous. Mais ne nous permettons pas de l'enfermer dans nos limites d'incrédulité, dans nos limites d'inaction, dans nos limites de timidité, dans les limites de notre croyance, de notre conception, de notre éducation. Dieu veut nous faire sortir de ces limites. Et il nous parle... Il veut nous amener à la stature à laquelle il veut nous amener. Et toute notre vie, il va tirer sur la corde pour nous faire avancer, pour nous apprendre à nous élargir, pour nous apprendre à avancer et à le laisser grandir en nous. Mais il faut qu'on élargisse nos cordages, il faut qu'on élargisse notre cœur, il faut qu'on s'élargisse pour le laisser s'exprimer en nous et ne pas laisser enfermer Dieu. Dans notre immobilisme, dans notre petitesse. Alors soyons des Gédéons, soyons de ces personnes qui se lèvent et qui refusent de continuer de se voir toutes petites, toutes timides, méprisables, vouées pour toujours à rester enfermées. Dieu veut nous faire sortir. Alors sortons et courons vers lui pour... vraiment être des instruments malléables dans ses mains, des instruments qui répondent au quart de tour à tout ce qu'il nous demande de faire pour lui. Amen.